J'ai une collaboratrice, mais elle n'est pas encore arrivée, je pense qu'elle va arriver sans tarder, la Marjorie.
D'accord.
Qui suit un petit peu tout ça, qui puisque c'est les endroits des sociétés. Les, donc moi je suis rentré de congé hier. Hein,
oui.
J'ai eu le temps de voir, vous avez envoyé des documents, mais j'ai pas le temps de descendre, je reconnais.
D'accord.
Par contre, elle m'a indiqué, mais je ne sais pas si c'est exact ou pas, qu'il fallait qu'on fasse une proposition vite maintenant par rapport
voilà.
à l'acheteur.
Ouais.
Donc on va peut-être se concentrer sur ça aujourd'hui.
Mm-hmm.
Parce que de toute façon, la forme, la, j'allais dire, de propriété, si vous voulez, qu'on mettra en place, n'est pas fondamentale, si vous voulez, pour la proposition qu'on va mettre en place hein, pour les acheteurs, me semble-t-il, hein, pour les vendeurs tout au moins. Si ce n'est que je pense qu'il est intéressant psychologiquement de faire ressortir le côté. Oui, ce n'est pas associatif, mais collectif, hein, du projet, si vous voulez. Ça peut être un argument important, mais sans rentrer vis-à-vis d'eux dans le détail de ce qu'on va faire.
De la structure.
Voilà, tout à fait.
Ok. Parce qu'en fait, donc, on avait normalement jusqu'à novembre pour faire une offre, et ils nous ont contacté il y a 15 jours pour nous annoncer qu'ils avaient une offre d'un promoteur à 2 millions d'euros,
oui.
Donc ce qui est bien au-dessus de ce qu'ils attendaient au départ, et ce que nous, on attendait aussi, effectivement. Et que et qu'ils avaient décidé, est-ce que c'est lié à ça, enfin sans doute, mais qu'ils avançaient la date limite de dépôt des offres, et donc ils nous ont mis un petit peu plus la pression sur le fait que donc ils vont faire donc le 30 septembre, donc la vendredi dans 10 jours, ils vont faire une présélection entre les différentes offres qu'ils ont, et c'est ils pensent 3 offres qu'ils vont garder, après seront ils leur demanderont des détails supplémentaires, le statut exact, etc., etc., pour n'analyser que celle-ci et donc trancher début janvier comme c'était prévu au calendrier de départ.
Donc il faut qu'on blaise tout de suite.
Voilà.
Je suis un caricature, mais...
Ouais, ouais. Et donc nous, on a eu à la suite de ça une réunion de crise, en quelque sorte, enfin, on a une réunion toutes les semaines, mais là, on a changé notre ordre du jour pour parler de tout ça. On a fini par trancher qu'on continuait dans la course, même si, malgré cette augmentation, parce que au niveau économique, on pense que c'est encore jouable. Et mais par contre, bien sûr, voilà, ça nous poussait au niveau des délais. Entre temps encore, donc, on a rencontré donc, l'interlocuteur qu'on a au niveau de la fondation, donc le père Châtelier, qui est venu en fait à notre réunion d'hier. Il y a une deuxième offre à 2 millions. Et il a laissé entendre que on ferait partie de ce trio dont on parlait la première fois. C'est-à-dire que, parce qu'on lui a dit qu'on allait aussi s'aligner, bien sûr, hein, mais que donc ils allaient garder les deux promoteurs à 2 millions, éliminer tous ceux qui étaient à entre 1 million 4 et 1 million 650. Et nous garder, ce qui paraît assez logique, enfin garder ceux qui...
Dans la première logique économique, s'il y en a 3 à 2 millions, c'est sûr que ceux qui seront gardés.
Voilà.
C'est brutal, c'est mm-hmm. Voilà. Je pense qu'ils ne sont pas émis de leurs intérêts.
Voilà.
Et que grosso modo, quand on nous propose un 5 d'un côté et de l'autre, on n'hésite pas.
Voilà. Et ça ne nous protège pas du fait que si ça trouve, il y aura surenchère encore entre,
tout à fait.
Entre le trio de tête.
Oui, après... On a peut-être des arguments à faire valoir. Si
voilà, voilà. Et c'est là que la question, effectivement.
Parce que je voulais. Voilà. Ma première question, c'est de savoir si vous alignez, parce que je pense qu'on n'a pas le choix.
Oui.
Voilà. Après, dans une discussion, je pense que si on re-rencontre, ou si vous re-rencontrez le père Le Châtelier, ça serait bien que je sois présent. Pour expliquer deux choses, si vous voulez. La spécificité de votre projet, sur laquelle vous serez d'ailleurs meilleur que moi, mais surtout la partie promotion que je connais bien, parce que c'est mon travail, si vous voulez. Donc, leur indiquer qu'elle pourrait être pour eux aussi des aléas de traiter avec un promoteur plutôt qu'avec vous, parce qu'il y en a. Donc, je pense qu'ils ne sont pas idiots, ils en ont conscience, que votre proposition leur plaît pour son côté. Collectif, si vous voulez, alternatif, comme ça, voilà. Alternatif, je pense que c'est séduisant parce que pour eux, même s'ils vendent, ils préféreront certainement un projet de ce type-là qu'un, entre guillemets, un vulgaire promoteur, si vous voulez, qui va faire comme tout le monde, si vous voulez, à égalité de prix ou avec peut-être une légère différence. Après, est-ce qu'il vous a indiqué l'identité des promoteurs qui avaient fait la
proposition ? Non, il l'a refusé. Par contre, il nous a. Donc, c'est Audrey, donc l'une des. Membre du groupe qui est le plus souvent en contact avec lui, elle lui a demandé si on pouvait avoir, savoir quel type d'offre ils avaient faite, etc. Il a refusé, mais il nous a fourni une offre d'un autre acheteur potentiel, mais à un prix beaucoup plus bas. Voilà. Il n'a pas voulu nous montrer l'offre celle-là de Millions. Et
vous avez montré les conditions qui étaient voilà. Toutes les mêmes.
Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que c'était toutes les mêmes conditions.
Oui, oui, oui,
voilà. Ce qui est assez léger, je trouve, comme, comme condition ce qu'ils mettent.
Alors,
parce qu'ils ne parlent pas du permis de construire, ils ne parlent pas des clauses de pré-vente, etc., de pré-commercialisation et tout ça. Donc,
Parce que dans les promoteurs, il y en a des. On les connaît un peu aussi. Ouais. Hein. S'il dit que, c'est que ceux qui sont à 2 millions, c'est pour ne pas les citer, Bouygues et Coquelin-Jumeraude, je sais que c'est surtout du vent. Enfin, c'est pas du vent, ils achèteront peut-être, mais c'est des gens qui font gonfler les marchés un peu artificiellement, qui est à faire redescendre la fraise. S'ils me disent c'est Marignan ou c'est Vinci, je sais que c'est plus sérieux et que c'est des, voilà, c'est des gens qui veulent y mettre ce prix-là. Quoi.
D'accord.
Après. Alors là, je reconnais que je suis un peu étonné. Descriptif, prix 1,4 million.
Donc c'est l'une des premières offres qu'il a reçues, ça date d'il y a 3 ans.
Je n'ai pas de condition d'emprunt, ce qui est normal, personne n'en fera le promoteur. Mais bon, ils n'ont pas parlé du permis, ça m'étonne un peu. Et ça, c'est.
Ça, ça, c'est juste un modèle d'offre qu'on a trouvé sur Internet.
D'accord. Alors, je vais vous. Grosso modo, si vous voulez, quand on fait une proposition comme ça. Il y a, pour être clair, si vous voulez, il y a deux types de choses. Enfin, on peut, nous, on fera sortir le projet. On va en parler, parce que c'est quand même ce qui fait votre spécificité par rapport au promoteur. Donc ça, c'est très important de mettre en avant, au moins dans les grandes lignes. Donc, c'est l'habitat alternatif. Deux, et le prix. On va discuter, on va se mentir, si vous voulez, c'est quand même l'élément fondamental. Et trois, les conditions suspensives, qui sont les conditions que l'on pose à la réalisation de notre opération. D'accord ? Un promoteur, dans les promoteurs nationaux, je veux dire les gens sérieux, il ne mettra aucune condition suspensive de financement. Il va dire j'ai les fonds, je m'en débrouille, j'en fais mon affaire par rapport à un particulier, moi ce que je vous donne, c'est comme ça. Et sa condition généralement essentielle, ça va être, et unique pratiquement, ça va être l'obtention d'un permis de construire qui lui permette de réaliser une certaine chose. D'accord ? Chose qu'il a calculée et qui lui a permis de déterminer son prix. Grosso modo, aujourd'hui, sur ce secteur-là, on doit être entre 800 euros et 1000 euros le mètre carré de chaude, à peu près. C'est-à-dire qu'un type qui propose 2 millions, il doit pouvoir, il pense à peu près faire 2000 mètres carrés de chaude, 2500, si vous voulez, sur le terrain en question. Ça doit être à peu près son ordre d'idée, son ordre d'échelle. D'accord.
Là, en fait, la chaude, elle est, sauf si lui, il a des informations qu'on n'a pas par le PLU, enfin, qui sait qui va être modifié, etc. La chaude est de 1200 et elle n'est pas augmentable. Enfin, elle peut être augmentée de 30 mètres carrés. Et d'après le père Châtelier, cet acheteur à 2 millions souhaiterait réhabiliter l'immeuble. Donc, de toute façon, bon, il n'a pas les murs il n'a pas l'immeuble à raser et à reconstruire, etc. Mais il n'a que à réhabiliter les appartements actuels, il ne peut pas augmenter la surface.
Oui, mais la réhabilitation, ça coûte en général 1200 euros au mètre carré, à peu près, en moyenne. Donc lui, ça veut dire qu'il va 1200, si je prends 1200 fois 1215, il va avoir 1,4 million, 1,5 million de réhabilitation, si vous voulez, plus 2 millions de prix d'achat. 3400 divisé par 1215, il sort un prix de vente de 2800, il est rentable. Un prix de revient, c'est 2800, et là-haut, il va vendre ça.
4000 euros, 4500 euros du mètre carré.
4500 et 5000 euros du carré, c'est sûr. Donc il passe. Après, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de condition de permis. Parce qu'ils ne veulent pas détruire et reconstruire. Une réhabilitation, ce n'est pas forcément un permis.
Oui.
Bonjour, André.
Bonjour. J'avais
laissé
un message
pour répondre
dessus pour
le dossier. Ah, vous avez
pas.
Bonjour, Marjorie, avec qui je vais travailler sur ce dossier-là. On est en train d'évoquer donc effectivement les propositions qu'on va faire. Ça vous concernera un petit peu moins directement parce que c'est moins des pouvoirs de société. Ce que je vais expliquer à ces messieurs-là, c'est qu'il faut qu'on se concentre absolument sur la proposition qu'on va réaliser. Je vous résume, sachant qu'il y a deux promoteurs qui sont déjà à 2 millions sur l'affaire et qu'il faut qu'on s'aligne et qu'on fasse une proposition. Donc, apparemment, les promoteurs, pour qu'ils proposent un prix comme ça, c'est qu'ils ne vont pas détruire et reconstruire, donc ils n'ont pas de condition de permis. Parce que la chaude n'est pas suffisante, si vous voulez. Là-bas, la chaude est de 1200 m², il n'y en a pas beaucoup plus. Donc, à 2 millions, ça veut dire qu'il serait pratiquement à 2 000 euros de carré chaude, parce que j'en Le maximum que j'ai vu pour l'instant, c'est 1 000 euros par carré. Donc, c'est pas possible qu'ils fassent une nouvelle construction. Ça veut dire qu'ils vont réhabiliter. Et là, on regardait à peu près, si vous voulez, la réhabilitation, ça coûte 1 200 euros par mètre carré environ, en moyenne, hein, sur un bien. Donc, ça fait 1 400 000, plus 2 millions, ça fait 3 400 000. Si on divise par la chaîne existante, même pas, on a un prix de revient de 2 800 euros par mètre carré. Ce qui, effectivement, pour eux, est intéressant. Mais c'est quand même gênant pour nous parce que ça veut dire qu'ils soumettent leur achat, ils ne soumettent pas leur achat en général à une condition responsive de permis. Ce qui nous a permis de lutter un peu parce que permis de construire, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire un délai long, ça veut dire pratiquement pour un promoteur moyen 5 mois pour le déposer, à peu près 3 mois enfin, derrière pour l'obtenir, recours des tiers encore 2 mois. Donc ça fait pratiquement un délai d'un an, pas très loin si vous voulez, pour avoir un permis définitif à utiliser. Plus tout un tas de conditions qui sont liées à la nature du sol, au fait qu'il n'y a pas de... Ils ne sont pas laissés à faire des fondations spéciales, qu'ils n'ont pas... Donc on avait des conditions, ils avaient des conditions de délai qui pouvaient être un peu longues. Là, s'ils n'ont pas de conditions de permis, ce n'est pas le cas. Donc ça va nous gêner un peu, pour pas vous gâcher bien, parce que c'est là qu'on peut lutter contre un promoteur en disant nous on peut aller un peu plus vite, on ne pose pas de conditions de permis parce que quelque part on n'en a pas besoin, mais si eux sont en même cas que nous, on va lutter avec des arguments, on perd quelques armes ici. Voilà, d'accord. Donc là, on n'a pas des propositions à 2 millions, mais le vendeur nous a transmis une proposition à 1 400 000, avec, pour indiquer voilà, le type de conditions suspensives qui étaient indiquées, grosso modo, ils n'en ont pas. Voilà, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne font pas de conditions de financement, et ils versent 5% le jour du compromis, ça très bien, c'est comme n'importe qui. Et puis, le fait que ce soit libre. Voilà, c'est finalement les seules conditions, ce qui ne pose pas de problème majeur. Hein. Donc, on va y aller. Hein, mais... Alors, nous.
Est-ce que, dans le cas d'une réhabilitation, est-ce qu'il. Pourrait mettre, mais ben alors donc ça serait peut-être en deuxième phase, enfin juste au moment du compromis, on négocie entre l'offre et le compromis pour mettre une clause sur la pré-commercialisation. Ou est-ce que ça se fait que dans des nouvelles constructions, ça ?
Non, ça se fait, hein. Ça se fait, mais pas chez les promoteurs sérieux.
D'accord.
En clair. La plupart des ceux qui font de la pré-com, parce que la pré-commercialisation, c'est une façon indirecte de remettre une condition de financement.
Ouais.
D'accord. Parce que c'est imposé par certains banquiers. Qui vous disent je vous suis uniquement si vous avez pré-commercialisé 70% du programme. Commençant à venir quand même des temps un petit peu difficiles là, pour la promotion, les banquiers vont être un peu tendus. Et une condition de pré-com, moi je les aime pas hein, quand je suis vendeur parce que ça veut tout dire et rien dire. Si le vendeur s'en occupe pas, s'il néglige complètement
ses dossiers.
Donc sur un acheteur, un promoteur glandouillou, oui, il y en aura eu, ils vont tenter d'en mettre une. Un promoteur sérieux, ceux que vous citez tout à l'heure, les Vinci, les Marignan, et même pour le coup, Bouygues et Coffman-Hambro, personne n'en mettra, si vous voulez.
D'accord.
Ou si jamais ils la font disparaître, il suffira de demander pour qu'ils l'enlèvent. Parce qu'on sait très bien qu'une pré-commercialisation, ça veut dire que c'est une condition de financement dissimulée. Quoi. Donc la plupart, alors s'il y en a une en face de nous, ça sera très simple à démonter, mais je ne crois pas.
D'accord.
Enfin, je ne compte pas dessus.
Ouais. Ok.
Donc, nous, c'est 2 millions tout rond ou...
Apparemment, oui. Bon. Actuellement, c'est 2 millions.
Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, si tu peux me transmettre alors, très rapidement, parce qu'on va le faire avant vendredi, c'est ça ou avant...
Vendredi suivant, le 30.
Ouais, enfin, bon, on va le faire pas trop. 80. Comme je disais, votre proposition va s'articuler sur trois choses. Un, le descriptif sommaire de votre projet, au moins dans l'esprit, parce que c'est quand même aujourd'hui, à mon avis, votre argument essentiel. C'est vraiment ce qu'on peut faire valoir, notamment auprès des pairs qui sont, ils sont forcément un peu sensibles, si vous voulez, pour eux. Vous dire qu'on a un habitat alternatif plutôt qu'un promoteur qui va vouloir faire des profits, je caricature, mais c'est un peu ça. Ça leur fera sûrement envie. Voilà. Donc, il vous faudrait, s'il vous plaît, un descriptif de votre projet, mais court, vous voyez, mais qui montre un peu l'esprit de ce que vous voulez faire, en une page ou plus pire, une demi-page à peu près. Vous voyez, à peu près l'esprit, pour qu'on puisse le mettre sur la proposition, qu'on vraiment on insiste sur cet aspect-là, le collectif, etc. Et puis après, nous, on va rédiger la partie, vous me l'envoyez, on va l'intégrer à la proposition, et on va intégrer donc, le prix, ben, ça n'a pas le choix, c'est 1 million, grosso modo. Et alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est les délais et les conditions. Si. On se porte acquéreur. Qu'est-ce qu'on met comme condition ? On met du financement ou on n'en met pas ?
Ben, nous, on serait d'avis non, puisque non. Enfin, ce n'est pas encore complètement tranché au sein du groupe, mais on a commencé donc, suite à à ce coup de semonce, à cette annonce de l'accélération des choses. On a contacté les banques, parce qu'on avait prévu ça dans notre échéancier, on avait plutôt voilà, commencé à faire ça en septembre, mais de manière un peu, on va dire, à la cool jusqu'à la date limite. Donc là, il y a eu 4 rendez-vous qui ont déjà été pris, enfin qui ont eu lieu la semaine dernière, et on a un accord de principe de la Société Générale sur la totalité de l'emprunt et des crédits coopératifs sur 1 million.
Quel que soit le montage.
On a présenté une SCI, pour faire simple.
D'accord.
Voilà, donc on est allé en présentant une structure de SCI et en présentant nos apports, nos différents revenus, etc. Enfin, toutes les conditions. C'est un peu classique, enfin, celles qui nous ont demandé, en fait. Et donc, vu nos apports, vu le projet, vu on a fait aussi un prévisionnel. Vu notre prévisionnel, la Société Générale nous suivrait, sachant que c'est un petit peu. Par piston, hein, puisqu'une des Audrey Bonjean, dont je parlais tout à l'heure, son père est directeur de.
Non, mais tant mieux, là c'est voilà. Qu'il faut. Hein.
Voilà. Et donc il y a eu quelques conflits qui ont été passés au niveau du siège, etc. On a été très très bien reçus. Et donc eux, on a l'accord de principe déjà, enfin pour le moment c'est qu'à l'oral, mais on l'aura à l'écrit d'ici la fin de la semaine. Pour les autres, pour le moment c'est encore en discussion.
D'accord. Donc il faut prendre le rang, là du coup. Ouais, c'est pas du tout, c'est les armes avec lesquelles il faudra. Oui, alors voilà, parce que si on met une condition de financement, on sera défavorisé par rapport à eux qui n'ont pas.
A priori, vu le montage, enfin si on part en SCI avec un montage simple et avec les apports qu'on a annoncé, qu'on a effectivement, etc., il n'y a pas de souci. Donc on n'en a pas réellement discuté complètement en groupe. Mais de notre avis, effectivement, on n'a pas besoin de mettre cette clause. Après, il faudrait peut-être quand même qu'on pèse bien tous ensemble toutes les conséquences de ne pas la mettre.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous voulez. Le principe du compromis, c'est que le jour où on va signer un document, donc quelque part en janvier, février, si j'ai bien compris, on sera.
Ça risque d'être plus tôt. Enfin, on a peur après que ce soit plus tard s'il y a surenchère.
Oui.
Mais en fait, donc, les oblats, donc, qui sont les prêtres. Et il y a la fondation qui, elle, est censée décider, mais en fait, c'est les oblats qui décident tout en sous-main.
D'accord.
Et donc, s'ils trouvent que la fondation va trop lentement, ils lui imposent des décisions.
Oui, ce qui est le cas maintenant un peu.
Voilà. Et donc là, ils ont imposé un avancement d'un mois. Ils se réunissent donc le 30, ils font leur présélection, et s'ils trouvent que ça traîne trop, ça pourrait même aller plus vite.
D'accord. Donc, il faut avoir conscience que le jour de l'avant-contrat, pour le compromis, si vous voulez, on devra verser effectivement 5% du prix, donc 100 000 euros. Tout le monde le fera. Alors, les promoteurs vont peut-être essayer de remplacer ce versement de 5% par la fourniture de ce qu'on appelle une caution bancaire. C'est-à-dire qu'eux ne vont peut-être pas débourser les 5%, ils vont aller voir une banque qui va dire si jamais mon client, l'acheteur, ne va pas au bout, on versera 5% à sa place. Ce qui revient au même. Si le même salaire évite de sortir l'argent, on n'aura pas le temps ni le moyen de négocier avec la générale la fonte de caution bancaire et puis c'est pas rien votre activité. Il faudra donc qu'on trouve pour l'instant 100 000 euros qui vont être déposés, qui vont être bloqués jusqu'à la fin de l'opération, jusqu'à l'achat. Il faut avoir conscience également que dans l'avant-contrat, puisqu'on aura très peu de conditions suspensives, si vous voulez, il va être prévu que si jamais l'une des parties ne réitère pas son engagement à la vente définitive, c'est-à-dire que grosso modo vous ne voulez plus acheter, il va être prévu ce qu'on appelle une clause pénale, une pénalité de 10% qui vous sera demandée par le vendeur pour pouvoir vous dégager librement ou voir qu'il vous sera imposé par le tribunal, si le vendeur va au tribunal pour vous obliger à acheter. Alors, on a un peu de mal à obliger un acheteur à acheter, mais par contre le faire payer pour son engagement réalisé, c'est assez simple. Enfin, c'est simple, c'est classique. Donc ça va être 10%. Donc le risque pour vous, si vous voulez, dans l'absence de conditions suspensives, c'est que si finalement on n'a pas de financement réel qui se met en place, si on gadouille un peu, si on n'y va pas, si on n'y va plus, on peut, enfin quand je dis on, ça va être vous, perdre 200 000 euros, d'accord ? Dont 100 000 qui auront déjà été payés, qui seront faciles à appréhender pour le vendeur, et 100 000 qu'il faudra sortir de plus. Voilà quel est le risque, si vous voulez, de l'absence de conditions suspensives de financement. Si le final, on avait déjà évoqué un petit peu ça la dernière fois, lors de notre dernier entretien, vous étiez assez optimiste, en disant de toute façon, même s'il n'y a pas de prêt, on pourra, alors, c'était sur un prix inférieur, hein, vous disiez qu'on y arriverait grosso modo, peut-être par d'autres moyens, peut-être par des prêts personnels, peut-être par des apports plus importants. Donc si vraiment vous êtes sûr que à partir du moment où le vendeur vous donne son accord, on va au bout de l'opération, oui, on y va. Si pour vous c'est un peu aléatoire, et effectivement on a quand même augmenté un peu notre montant d'acquisition, là, C'est dangereux de permettre une condition expansive, je ne vous cache pas. Mais ça peut le faire capoter le dossier aussi.
Le risque, nous, qu'on ressent un petit peu, c'est en cas d'effondrement complètement très boursier, où tout d'un coup la banque se retirerait, puisque tant qu'elle fait qu'un accord de principe, elle n'est pas engagée. C'est juste une. Voilà. Donc c'est là qu'on.
Oui. Comment, justement, par rapport à cette question, si vraiment il y a un effondrement de l'immobilier comme ça, d'un coup, dans 6 mois,
En 6 mois, puisqu'on est censé avoir signé déjà.
Mais la question, c'est que, parce que entre le coup premier et la vente, il va se passer un peu de temps.
Voilà.
Et nous, le problème qu'on a, c'est si tout ça s'effondre et s'explose. Exactement comme ça s'est passé en 2008, ça arrive en 2 mois, ça nous tombe dessus. Grosso modo, au mois de juin, on commençait un ralentissement. En septembre, tout était mort. Voilà. Et je ne vous dis pas que c'est pas impossible du tout, il ne faut pas se le cacher. Si vous voulez, avec les problèmes de. La dernière crise qu'on a connue était essentiellement une crise de confiance des banques entre elles. Et ils ne se faisaient pas confiance parce que chacune. Vous savez, l'argent, il n'est pas infini. Il tourne entre les banques. Si vous voulez. Pour que les banques prêtent, il faut qu'ils entrent ailleurs. Seulement, les banques ne se prêtaient plus entre elles. Parce qu'elles pensaient qu'effectivement, leurs actifs respectifs étaient des actifs trop pourris, des choses comme ça, pour que la banque soit solvable. Donc le Crédit Agricole ne prêtait plus à la Générale, qui ne prêtait plus à la BNP, qui ne prêtait plus au Crédit Agricole. Enfin voilà. Et c'est comme ça que ça arrive. Et là, ça peut tout à fait être pareil. Si les idées qui ont été émises récemment, d'annuler la dette grecque, etc., là, ça peut plomber très très sérieusement les banques. Et les banques, de nouveau, on va retrouver sur une crise de confiance où les banques ne feront plus de crédit parce qu'elles ne trouveront plus d'argent pour emprunter, si vous voulez, et pour vous prêter à vous. Donc je ne peux pas vous dire que ça n'arrivera pas. Mais le mettre en condition suspensive, ce n'est pas simple non plus. Parce que quel est le critère objectif qui pourrait être retenu pour expliquer qu'on est entré en récession et qu'il n'y a plus de prêt bancaire.
Comprenez, voilà. Mais dans ce cas, on pourrait repousser les délais.
Oui.
En attendant que.
Et je ne vous cache pas qu'un promoteur, dans ce cas-là, il n'ira pas non plus. Faut pas... Voilà, il n'ira pas non plus parce que si jamais il sent que le marché de l'immobilier se casse un peu la gueule, ce qui peut largement être le cas, notamment avec le neuf, parce que le CD est en train de s'amenuiser, le potentiel a été un peu épuisé, il peut très bien, en 2008, ils ont tous voulu se retirer du marché. Donc il peut très bien ne faire le même coup. Mais nous, par contre, on n'a pas leurs moyens juridiques à eux. Si vous voulez, on est plus petits. Et on va. Si le vendeur nous dit, bah, écoutez, vous avez signé, maintenant il faut réaliser, on va lui dire, écoutez, la donne a changé, ça ne marche pas.
D'accord.
Donc, effectivement, la seule protection efficace, c'est de dire, on met une condition suspensive de financement. Mais à ce moment-là, ils vont la refuser, ils vont préférer celui qui, pour l'instant, n'a pas. Quitte à se faire planter par la suite par le même promoteur, parce qu'il aura l'impression, pour l'instant, qu'il vaut mieux traiter avec lui.
D'accord.
Alors, est-ce que les marchés vont se casser la figure? Je ne sais pas. Mais je crois que personne n'en sait rien, malheureusement.
Mais ce qui est OK à la Française, là, sur le fait de gagner du temps, est-ce que si on signe un compromis, imaginons en janvier, et que dans le mois qui suit, il y a un effondrement, enfin, quand est-ce qu'on doit payer les 2 millions exactement?
C'est la question que vous posez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre le compromis et la vente, quel délai prévoit-on?
D'accord.
Et ce délai est en fonction des conditions suspensives, si vous voulez un petit peu. Okay. Si on n'a pas de conditions suspensives, on peut prévoir, nous, un délai qui correspondra à la nécessité de la mise en place de notre opération, à la création des structures, aux emprunts qui vont avec, parce que même si on n'a pas de conditions de financement, ça n'empêche pas qu'on fasse un emprunt. Tout comme un promoteur va demander aussi du délai, si vous voulez.
D'accord.
Mais un promoteur qui achète en conditions suspensives, il va mettre un délai court, il va mettre un délai de 3-4 mois, pas plus.
D'accord.
Donc, entre les deux.
Voilà. Mais donc. Une fois que dans ce compromis le délai est indiqué, imaginons 3-4 mois, on est obligé dans les 3-4 mois de mettre sur la table les 2 millions d'euros. Et donc s'il y a effondrement pendant cette période-là, est-ce qu'on peut renégocier un petit temps en disant écoutez, attendez que ça remonte un peu, on va avoir notre prêt ou...
On peut toujours renégocier. Mais une renégociation, vous dites bien, ça suppose l'accord des deux parties.
D'accord.
C'est-à-dire s'ils sont d'accord, ça ne posera aucun problème de prolonger les délais. S'ils ne veulent pas, on ne pourra pas le faire de notre prochain. Après, entre gens de bonne compagnie et intelligents, on arrive toujours à négocier une prolongation, mais on aura du mal à négocier une prolongation de 2 ans.
Oui, bien sûr. Mais si on imagine qu'il y a un effondrement boursier, enfin, on pourrait peut-être arriver à s'en sortir en attendant un tout petit peu que ça remonte, enfin finir par
la dernière fois, ça a mis pratiquement 2 ans.
Ouais, d'accord. Donc pendant 2 ans, vous avez des clients qui n'ont plus pu avoir d'emprunt.
Oui.
D'accord.
Beaucoup moins.
Ouais.
Les banques prêtaient plus. De septembre 2008, grosso modo. Alors les banques se sont mises à reprêter à partir de début 2010 à peu près. Donc ça dure 1 an et demi. Donc c'était un peu compliqué, oui. C'était un peu difficile, les ventes ne suivaient plus, les acheteurs ne voulaient plus se lancer parce que la situation était périlleuse pour eux, est-ce qu'ils allaient être au chômage, est-ce qu'ils n'allaient pas, et les vendeurs ne voulaient plus se lancer non plus parce que les biens étaient décotés sur le marché, et il y avait une baisse qui était annoncée de 10, 15, 20%, ils disaient pourquoi est-ce que je vends maintenant, si je vendais il y a un an, j'avais plus de 20%, donc ils ont attendu, donc effectivement il y a eu une période très dure, et ça peut être pareil. Et effectivement, mais ça, la difficulté, c'est que si on n'a pas une horizon de financement, on aura du mal à le maîtriser. Et votre vendeur, sans vouloir le critiquer, mais il va vous dire grosso modo que ce n'est pas son problème. Ce qui n'est pas vrai exact, parce qu'en réalité, il aura du mal, si tout s'écroule, il aura du mal à vendre son bien de 1 million d'euros dans 6 mois, si tout s'écroule entre-temps. Hein. Mais il faut que c'est signé, c'est pour ça qu'il précise un peu les choses à l'instant-ci.
Oui, c'est pour ça, tout à fait. D'accord. Ouais, il n'y a pas que le vent.
On sait très bien, si vous voulez, il y a eu des grosses, grosses paniques tout le mois passé là, sur la plus-value. Hein, donc, ça a généré de l'affolement un peu de partout. Là, le report d'imposition, le report de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, c'est au 1er février 2012. On sait très bien que l'impact direct de ça, c'est qu'on va avoir une surcharge de travail colossale entre aujourd'hui et le 1er mois de février. Et après, on va avoir un trou. Parce que tous les gens qui veulent vendre un appartement, quelque chose qui n'est pas leur résidence principale, vont vouloir le vendre avant le 1er février. Si vous voulez, ceux qui avaient prêt à le vendre, ils vont précipiter les choses. Voilà. C'est de la petite semaine, hein, mais c'est comme ça aujourd'hui au niveau du gouvernement. Ce qui est pris à un mois, on anticipe, c'est déjà à peine que pourra derrière. C'est vraiment du bricolage, mais c'est ça. Et on sait qu'on va avoir une dépression après le 1er février. C'est vrai. Sur les terrains bâtis, ce sera moins sensible parce que quelqu'un qui vend son terrain, son acheteur n'a pas le temps matériel d'obtenir un permis de construire. L'autorisation est le 1er février. Donc sur les terrains, ça ne changera pas grand-chose. Mais sur les appartements, c'est sûr qu'on va avoir une grosse surcharge maintenant. Ça commence. D'ailleurs, là, les agents immobiliers qui ne rentraient pas un dossier, là, ils ne trouvaient pas un bien à vendre là, pendant 2 ans. Et là, j'en ai eu 2 hier, ils m'ont dit qu'ils rentrent 5 mandats par jour pour l'instant. Alors nous, on est un peu après la chaîne, mais ça recommence. Moi, j'ai rentré 2 compromis hier. Des gens qui essayent, si on y va. Hein. Donc, ça n'arrête pas. Ça va être... Et comme ça, je comprends. Et après, ça va s'arrêter d'un coup. On sait. Comme ça. Donc, je peux vous dire autre chose. Hein.
D'accord.
Et là, les banquiers vont suivre, ils vont être surmenés jusqu'au 1er février, et puis après, il y aura un déclin. Alors, est-ce qu'ils vont se concentrer sur autre chose? J'en sais rien. Et la note de l'Italie a été dégradée, enfin, je vais pas faire la géopolitique, hein, mais c'est sûr que c'est pas super encourageant, tout ça. Hein.
D'accord. OK. Donc, bon, vous ne voulez pas prendre la décision de place, si je peux vous comprendre. Vous pensez.
On voudrait.
Voilà, je ne vous le demande pas. Enfin, vous pensez que c'est peut-être un petit peu risqué, mais que pour notre dossier, il vaudrait mieux ne pas avoir de clause.
Voilà.
En résumé.
En résumé, c'est exactement ça.
Moi, je propose, c'est qu'on en parle, nous, avec les gens du groupe. On a une réunion tout dimanche, là. Hein, donc, on mettra ça à l'ordre du jour pour vous donner la réponse très rapidement, vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met ou pas.
Alors,
on va un peu les choses.
En dehors de. Parce que nous, finalement, on va exposer notre projet, on va donner un prix et on va indiquer. Deux conditions. Un, le délai. Deux, est-ce qu'on a ou pas recours à un emprunt.
D'accord.
Le reste, c'est pas ça va être des conditions parfaitement usuelles, si vous voulez. C'est qu'on n'a pas de problème d'urbanisme, qu'on puisse faire notre opération, très bien. Il n'y a rien qui nous empêche de la faire l'opération. En deux mots, je vais également vous dire aussi, donc je ne sais plus si on avait évoqué lors de la dernière réunion, au niveau des autorisations d'urbanisme, vous allez réaménager un bâtiment. D'accord. On a deux possibilités. Actuellement, c'est de l'habitation de toute façon.
Oui, c'est déjà de l'habitation.
Voilà. Si on ne crée pas de surface nouvelle, grosso modo, on devrait pouvoir se contenter de ce qu'on appelle une déclaration préalable de travaux. Hein.
Donc, et on a eu confirmation de
donc relativement léger. Donc là, je vais dire, ça c'est même pas intéressant de faire une connaissance possible. Si vous voulez, il suffit de déposer un dossier, qu'ils n'ont pas trop mal ficelé. La mairie laisse passer un mois, ne suppose pas, et votre déclaration, elle est acquise, vous faites vos travaux. Donc je ne serais même pas protecteur. Ou intéressant pour vous d'en faire une condition suspensive, et puis ça pourrait contrarier nos vendeurs, donc c'est pas la peine. Donc la seule condition, c'est ça, c'est financement, pas financement, pour aller à l'essentiel, d'accord. Le reste, donc le financement ou pas financement, si on met financement, pour quel montant. Si on dit on met en place un prêt de 2 millions, ça va inquiéter le vendeur aussi. Si on lui dit on met en place un prêt d'un million, ça peut l'inquiéter un peu moins, mais ça ne sera pas la réalité non plus, donc ça ne nous servira à rien. D'accord. Et deuxièmement, en dehors du financement, le délai. Est-ce qu'on essaie de jouer un peu sur les délais ou pas? Est-ce que on a besoin de délai de façon pour mettre en place notre structure. Et une fois que la structure sera mise en place, pour discuter avec les banquiers, pour voir le financement qui va être accordé à la structure. Comme vous le disiez tout à l'heure, si on met en place une SCI 5, ça sera assez facile, si vous voulez, au niveau du banquier, de prêter une SCI, à condition qu'on justifie le revenu locatif de la SCI derrière, ou de revenus des associés, ou de baux qui vont être consentis, pas de problème. Si on met en place quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus subtil, comme on les a évoqués à plusieurs reprises, le banquier, ça peut être un peu différent. Est-ce qu'on aura des prêts personnels à chacun? Est-ce que ça va être un prêt collectif? Il nous faut un peu de temps pour gérer tout ça. Donc, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui n'est pas? D'accord. Donc, j'ai besoin que vous répondiez dimanche à ces deux questions.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée du panel de durée entre les différentes options? C'est-à-dire, une SCI, ça serait 3 mois, c'est ça?
4 me paraît raisonnable.
4 mois pour une SCI.
4 mois, c'est bien.
Voilà. Et si je compromis à la vente.
Oui, quand je compromis à la vente, 4 mois. C'est bien. Ça me paraît, j'ai peur que c'est un tout petit peu court pour nous. Le temps qu'on décide vraiment ce qu'on va faire, qu'on le mette en place, qu'on affine, qu'on soit d'accord et qu'on mette en place le financement, je préférerais qu'on ait 6 mois pour être honnête.
D'accord.
Et 6 mois me paraissent, alors c'est peut-être ça qu'il faudrait discuter avec le père le chevalier, enfin discuter avec lui, c'est peut-être notre marge de manœuvre, elle est peut-être là, si vous voulez, s'il faut affiner après. Je préférerais que pour le coup, on indique un délai un tout petit peu long, sans aller jusqu'à un an, si vous voulez, mais un délai un petit peu long, quitte à se laisser une marge de manœuvre pour le raccourcir, si jamais ils en font une condition dans leur discussion, vous voyez ce que...
D'accord, ok.
Que ce soit notre variable d'ajustement, comme on dit.
Au-delà de la société, si vous restez sous le titre d'une association, là les délais sont plus en la préfecture pour constituer une association.
C'est vrai aussi.
En fait, on a déjà une de créer, enfin, en cours de création.
D'accord.
Ouais. Mais c'est
une
pas
la association
Non, c'était pour le couper à la CIC, donc on voulait faire ce montage-là. Ouais. Ouais. Mais bon, même si c'est pas une association qui était destinée à ça au départ, c'était juste plus pour la partie développement du projet.
Voilà, moi je préférerais qu'on annonce un délai un peu plus long, peut-être qu'il a annoncé 8 mois, si on doit redescendre à 6 après, ça serait pas mal. Voilà.
Et donc l'idée, ça serait d'en discuter avec le père Châtelier, peut-être éventuellement vous, pour lui dire que voilà, on a mis tant sur l'offre, mais on pourrait se souhaiter à rabaisser.
Voilà, qu'on est prêt à discuter, quitte à mettre sur l'offre en disant qu'on se donne un délai de 8 mois, mais que si on ne veut pas en faire une condition essentielle et qu'on est prêt à rappeler ce délai à des délais un peu plus courts, si nécessaire, si vous voulez, de façon à ne pas fermer la porte.
D'accord. Voilà.
Parce que ça m'ennuierait quand même qu'on s'est planté parce qu'on a mis 8 mois de 4 quoi, par rapport à...
Oui, parce que je pense que ça fera aussi la différence pour la vie, c'est sûr. D'accord. Et donc ça, c'était la marge basse, on va dire.
Oui.
Et donc vous pensez que pour un autre type de structure, ça serait plus long?
Non, parce que ce qu'il faut, c'est qu'on discute si vous voulez, de ce qu'on va mettre en place. À mon avis, on en a pour un bon mois, si vous voulez, à savoir ce que vous voulez, à trouver la structure juridique qui va avec. Et après, on rédige, on met en place. Grosso modo, si on est dans la forme société, si vous voulez, après, on en a pour 3 semaines de délai entre la signature, les formalités. Grosso modo, en 2 mois, la structure sociale, elle peut être bouclée, d'accord, à peu près. Voilà. Elle peut être bouclée de façon ferme. Parce que, sauf si on fait une SCI et que la banque est intelligente, où on peut tout faire en parallèle, mais si on a une forme de structure un peu plus élaborée, le banquier va vous demander, la première chose, ça va être ça, hein, ça va être les statuts, et comment vous allez organiser ça. Donc il va falloir qu'on utilise les 2 mois, ce ne sera pas trop court, hein, pour lui dire voilà comment on monte notre projet, et qu'après on détermine qui emprunte ou pas, parce que là je ne le sais pas encore, si vous voulez. Est-ce que c'est une SCI qui emprunte? Est-ce que c'est vous qui, à titre personnel, faites des apports en fonction des structures qu'on va mettre en place? Je ne sais pas. Voilà. Donc le prêt collectif à la forme sociale, c'est plus simple. Une SCI qui achète et qui emprunte, ça la banque elle sait faire, ça ne lui pose pas de problème majeur. Si on met en place des financements individuels à chacun des associés, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd, complexe, difficile à financer, à garantir, etc.
D'accord.
Voilà. Donc, et puis après, suivant la forme de société, que ce soit SCI ou coopérative, c'est pareil, si vous voulez, ça. Tant qu'il y a une structure collective qui emprunte, la banque, elle sait faire ça. Elle demandera forcément les statuts. Mais bon, grosso modo, 2 mois pour mettre en place tout ça, et puis après, avec la banque, 2 mois derrière, on est à 4, si vous voulez. Voilà. Je pense qu'on aura du mal à descendre raisonnablement en dessous de 4 mois. Il ne faut pas se cacher les yeux. 6, on est bien. 8, on est confortable. Quoi.
D'accord. Voilà.
Mais peut-être trop pour le vendeur. Pour ça que si on met 8 mois, on lui mettra bien une petite phrase en disant que c'est le délai qui nous paraît maximum, si vous voulez, mais qu'on est prêt à discuter là-dessus si j'ai besoin.
D'accord. Okay. Un promoteur là, qui, sans aucune garantie, enfin là, il ne précise pas de durée dans cette offre qu'il nous a donnée comme les offres, ou en standard, il propose quoi
là, le promoteur, il va être comme vous. Il va dire, moi, sur l'opération en question, je réhabilite, j'ai pas de permis, j'ai une déclaration préalable de travaux, je vais déposer. Après, le promoteur, lui, il a un impératif, c'est que sa durée de commercialisation soit courte. Mm-hmm. Il faut qu'entre son achat et la revente, il aille vite. Donc, il faut que dès l'acquisition, il soit prêt à faire ses travaux. Son délai, même s'il n'écrit pas de condition suspensive, il va avoir besoin d'un délai pour déposer une déclaration de travaux, pour l'obtenir et pour la rendre définitive. Mm-hmm. Son délai normal, déclaration de travaux à déposer, ça va être de l'ordre de 2 mois. L'obtenir, c'est 1 mois de non-opposition de la mairie, ça fait 3. Définitive derrière, ça fait 3 mois, ça fait 6. Au bout de 6 mois, il est opérationnel.
D'accord.
Voilà.
Il faut déjà qu'il ait
plein de clés
tout aussi.
Oui, voilà. Bon, mais vous avez, ils ont, si vous les avez, vous, ils les ont aussi, il ne faut pas se.
Oui.
Ils ont déjà vu travailler, ils ont hyper avec un architecte, ils le font plancher pendant une semaine, jour et nuit là-dessus, et ne vous inquiétez pas, la déclaration de travaux, ils peuvent la déposer, que je vous dis 2 mois, ils peuvent la déposer en 15 jours s'ils veulent. Je vois bien comment ça se passe, quand ils sont vraiment intéressés par une opération, ils peuvent aller très vite. Hein. Mm-hmm. En plus, nous, à mon avis, eux, ils vont mettre 6 mois, les promoteurs. Ils peuvent mettre un peu plus court pour faire bien, si vous voulez, mais. C'est à peu près le délai dont ils auront besoin,
sinon
pour être juridiquement.
Donc pour pouvoir tout lancer au moment où il y a son argent sur la table, tout sera prêt.
Ils n'ont plus qu'à commencer les travaux,
d'accord.
Et commencer les derrière. Quoi.
Okay. D'accord.
Okay. Bah, il y en a peut-être qui font plus court, hein, parce que. Mais bon. Là, comme par hasard, ils n'ont pas évoqué le délai, vous voyez. Donc ça veut dire qu'ils comptaient discuter encore sur la signature. Parce que c'est la première question qui se pose après. Mais là, c'est pas évoqué, c'est sur le fait qu'il n'y a pas de condition de financement, que machin, qu'il n'y a pas de condition suspensive. Et voilà, on fait bien, et derrière, on négociera derrière, il va falloir qu'on est des acheteurs sérieux, qu'on a une condition, qu'on est obligé d'acheter. Donc, voilà.
Ok. D'accord, bon, pour ce point, on va du travail pour les manches.
Oui, important. Okay. Hein. Dernier point qu'il va falloir qu'on évoque un petit peu, qui fait la proposition ? Je m'exprime autrement. Quand on a Bouygues, Kaufmann & Bone ou je ne sais qui fait une proposition, il a une structure juridique qui est d'ailleurs pas généralement celle qui va acheter, mais il a une structure qui existe, si vous voulez. Nous, nos structures vont être à mettre en place, on va bien prévoir d'ailleurs, hein, que quelles que soient les personnes qui effectivement vont signer l'engagement, la vente du contrat, on aura ce qu'on appelle une faculté de substitution au profit de la structure qu'on va mettre en place dans l'esprit de du projet que vous allez me décrire, justement. Voilà. Seulement, qui pour l'instant va. Qui est-ce qu'on va mettre en première ligne ? Et pour le compte de quoi ? Parce que pour l'instant, vous êtes un groupe de personnes non structurées juridiquement, on va parler parce qu'il faut l'insulte, mais c'est.
C'est une association.
Oui, mais enfin, qui est. Enfin, on l'a remis, elle est déclarée.
Elle est déclarée.
Mais on n'a pas encore la. Au niveau des différentes étapes, là, on a reçu le récépissé de la préfecture, et donc il faut encore la parution
au journal officiel.
Oui, mais bon, elle existe quand même.
Elle est déposée. Hein,
pourquoi ? Parce que je préférerais quand même qu'on mette une association, quitte à dire que pour l'instant, expliquer que c'est un gros groupement de personnes, c'est une structure, et qu'on se substituera à une autre structure pour l'acquisition, ça on est bien d'accord, mais la mettre, parce que mettre des noms à titre personnel, ça m'ennuie un peu, si vous voulez. D'abord, ça implique cela plus que les autres, quelque part, mais c'est pas très légitime, et puis ça fait moins abouti. Qu'on puisse expliquer comment. Alors, vous avez un président d'association qui existe, donc il y a les.
Oui, enfin, c'est pas un président, c'est une association de type collégial. Donc, on est tous responsables au sein de l'association.
Et qui est-ce qui représente l'association ?
Tous. Donc, une association collégiale. On peut éventuellement, ou enfin, ça.
Il faudra peut-être dans votre collège, si
je voilà,
désigner quelqu'un qui est demandataire, parce qu'on n'a pas faire des fiches, je ne sais pas combien vous êtes, une dernière personne au moins.
Ben, disons, le noyau dur sur l'association, j'avais raconté l'autre jour, on est, je crois, 13 ou 14 ans.
D'accord. Donc, il faudra nous transmettre en même temps que le petit texte dont je vous ai parlé, les statuts de l'association, et puis peut-être évoquer ça entre vous, la désignation d'un
mandataire.
D'un ou de deux, peu importe.
De représentants,
C'est bien qui ait le pouvoir de signer, à qui vous donnez le pouvoir pour engager l'association dans cette opération-là, de façon à ce que nous, on puisse faire une proposition qui émane de quelqu'un qui a le pouvoir pour la signer et qui a le pouvoir pour signer la contrat.
D'accord.
Okay.
Donc, cette personne n'aura, on lui donne que le pouvoir de signer.
Voilà.
De représenter l'association.
La proposition, c'est moi qui l'ai écrite pour votre compte, donc là on n'est pas gêné si vous voulez. Il faut simplement que je puisse dire comment s'appelle l'association, etc. Mais après, le jour où on va signer mon contrat, il faudra qu'on ait ces personnes-là désignées, mandataires, l'association, si vous voulez. Pour,
okay. Donc ça, c'est pour la, c'est principalement pour la phase compromis. C'est pour l'offre.
Oui.
Enfin, l'offre en quelque sorte sur le plan légal n'engage pas à grand chose. Si. Ce courrier là, par exemple, qu'a fait le promoteur.
C'est, c'est une proposition d'achat quand même. Hein. Normalement, si on reprend les règles juridiques pures, une proposition d'achat est mise, le jour où elle est acceptée par le vendeur, ça devient une vente, hein, c'est ferme.
Ah oui, d'accord. D'accord. Okay.
Voilà. Donc, puisqu'il y a ce qu'on appelle rencontre des volontés, hein, des parties, la vente est conclue.
D'accord.
Alors, généralement, ça demande quand même un avant-contrat qui matérialise. Hein. Mm-hmm. Mais si on va dans la pureté du principe, une proposition d'achat, c'est pour ça que c'est important de la faire comme il faut, mm-hmm. accepter, c'est une vente.
Mm-hmm.
Donc il ne faut pas se louper dans ce qu'on va mettre dedans.
C'est sûr. Voilà. Ok. Mm-hmm. D'accord. Ok. Et donc si sinon l'option, enfin si ça avait, si on n'avait pas l'association, l'option ça aurait été qu'on signe tous.
Ben,
et est-ce qu'il peut faire plus peur aux acheteurs?
Alors, je vous aurais peut-être demandé de ne pas tous signer, effectivement, et je vous aurais peut-être dit on a un collectif représentant les dons, ça peut être tous signer, hein, c'est
d'accord.
Pas, hein.
Okay.
Mais on va la lier un petit peu, peut-être, notre proposition, c'est vrai. Quand, si finalement vous prenez l'option de ne pas avoir recours à un financement,
mm-hmm.
on sait très bien qu'il y a un financement en place. On va mettre, parce que ça les sécurisera certainement, que si on n'a pas recours à un financement, c'est parce qu'on a déjà eu un accord de principe donné par une, mm-hmm. voire deux banques, si vous voulez. Pour le vendeur, c'est plus sécurisant, c'est plus mieux de dire tiens, ils vont la petite semaine, mm-hmm. ils ne savent pas ce qu'ils font, ils écrivent n'importe quoi, mm-hmm. leur dire que vous avez déjà rencontré le banquier, qu'on a déjà un accord de financement de la générale et de peut-être du crédit coopératif ou mm-hmm. je ne sais quoi, on ne citera pas les banques. Mais ça fait plus. On dit voilà, si on renonce à ça, c'est parce qu'on a déjà un accord de principe. Ça donne du crédit à votre. Après, l'excès de signature peut un peu les inquiéter. Mais bon, après, simplement, c'est le même. C'est le. Comment dire, c'est l'esprit même de votre. De votre structure. La seule complication qu'on a, c'est l'organisation d'un rendez-vous, si vous voulez, pour le compromis. Et on aura le vendeur, on aura les deux notaires, encore ça va. S'il faut, alors 13, encore, on peut y arriver. Mais ce n'est pas forcément facile de faire défiler 13 personnes qui signent. On explique tous la même chose. Alors, ouais. Si on pouvait se contenter de deux, ça m'arrangerait bien.
Okay. Mais bon, voilà. D'accord. Oui, mais peut-être aussi de leur côté.
Oui, je pense aussi.
Ok. D'accord. Bien. Pour la partie offre, on a fait le tour là ou
Je pense.
Il y a quelque chose à
écrire, non, non, non. Moi, si j'ai un délai, les conditions sont possibles, j'en vois pas d'autre que le financement, la déclaration de travaux, on en a parlé, la structure et l'esprit de l'opération à expliciter un peu, on est bon.
D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a
le... Donc ça, il faut vous le rendre pour
quand
De toute façon, vous pouvez le rendre en dimanche, puisque vous allez en parler dimanche.
Ouais.
Dimanche, donc lundi, on sera le 26, si je ne me trompe
oui,
pas.
C'est ça.
C'est important que vous le fassiez passer lundi, pour que moi, dès lundi, je puisse faire une proposition officielle à moi. Alors, et ces gens-là, quand ils vous disent qu'ils veulent une proposition avant le 30, par exemple, vous aviez une sorte de cahier des charges, vous aviez une adresse à qui transmettre la proposition.
C'est la Fondation Masmo, enfin son représentant, Pierre Châtrier. Enfin, on a une adresse, effectivement.
Ben, il faudra transmettre tout ça aussi.
D'accord.
Pour que je lui transmette pour votre compte la proposition, si vous voulez, avec le nom évidemment de l'association. Donc je dis l'association qui est, se porte acquéreur, sur le nom de ses statuts, au lieu que vous n'écrivez pas ça. On verra après, mais au moins que je puisse l'indiquer, l'esprit de l'association, le prix, et c'est moi qui l'ai fait pour votre compte.
D'accord. Ok, très bien. Donc tout ça lundi.
Oui. Oui, parce que moi ça partira lundi après-midi.
D'accord.
Et les aléas du courrier dans ce qu'ils ont, je préfère qu'on soit pas trop. Il ne faut pas oublier 29.
Okay.
Donc, est-ce que. Parce qu'on a déjà commencé à préparer les argumentaires et choses comme ça, on peut vous l'envoyer tout de suite, comme ça, vous donner une petite idée de ce que l'on compte mettre.
Suite à la réunion, donc un peu de crise, là, on a appris l'accélération des choses. On avait un certain nombre de commissions qui travaillaient sur différents trucs. Enfin, par exemple, la partie technique, l'architecte, on a mis ça un peu en parenthèse, entre parenthèses. Et on a un sous-groupe, donc une sous-commission qui s'occupe justement de la partie offre et qui nous a parlé lors de la réunion d'hier de ce sur quoi ils avaient commencé à bosser. Et ils pensaient donc intégrer l'offre qu'on allait faire, donc, enfin, que vous alliez faire le notaire avec tout un descriptif de, du projet, etc. Donc,
oui, pourquoi pas.
On essaye, enfin, s'ils l'ont fini là pour lundi, on vous joint avec.
Oui, mais il faut, ce serait bien de le joindre même le plus tôt possible pour
oui.
Déjà la structure.
Oui, mais si, oui, si vous me l'envoyez sous format Word, pour moi c'est tout bon, si vous voulez, on l'intègre après. Alors, on ferait une proposition un peu plus épurée, si vous voulez, mais à laquelle on joindra tout ça. Parce que je pense qu'effectivement, la spécificité de votre projet, c'est aujourd'hui votre argument essentiel. Mm-hmm. Donc, tout ce qui peut aller dans ce sens-là, c'est bon.
D'accord. Okay,
c'est pour ça que je demande à l'inscriptif de ce que vous voulez faire, ça revient un peu à ça. Mmh. Alors, peut-être en plus élaboré, peut-être aussi si vous avez préparé. Ils voulaient mettre quoi des...
Alors, ils voulaient mettre. En fait, donc, on a fait une première offre en juin, hein, qui a été où. C'était une sorte de. On va dire plutôt une pré-offre, mais on avait fait. En fait, c'est un document qui faisait 13 pages en tout, où on présentait sur les 12 premières pages nos idées, nos valeurs, ce qu'on voulait faire du lieu. Il y avait aussi un chrominoscope. Et pour nous présenter un petit peu, humaniser la chose. Et la dernière page, c'était une offre. Voilà. Et donc là, on s'est rendu compte donc, que lors de leur réunion qu'ils ont faite à la suite de cette offre-là, ils n'avaient même pas regardé le document. En fait, ils sont
directement à la page 13.
Oui, ils sont peut-être allés directement à la page 13. Et puis, en fait, en plus, bon, c'était un seul document, alors qu'ils sont 6 ou 7, je crois, à chaque fois qu'ils se réunissent, il y a des oblats. Et donc, ils n'ont pas fait circuler le document. Enfin, ils avaient quelque chose. Traite plein de dossiers en même temps. Donc, et donc là, l'idée, c'était, enfin, c'est ce que nous a présenté la commission hier, l'idée, c'était de faire une idée par page, avec à chaque fois du texte beaucoup plus synthétique, donc condenser un petit peu tout ça.
Je m'en ai une demi-page.
Voilà, et leur permettre aussi voilà, de ne pas avoir un truc qui est relié, où il y en a qu'un seul pays, mais qui puisse se passer les morceaux, et puis si on a un qui veut regarder la dernière page, il va regarder la dernière, si on a un autre qui veut regarder une page, enfin, qui veut regarder les photos du chrominoscope.